Vous êtes sur le podcast Les Infaillibles, le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, deux coachs pour des interviews à deux voix. Nous avons fondé le cabinet de coaching Les Infaillibles pour accompagner les managers et les équipes dirigeantes sur le difficile mais passionnant chemin du management. Et comme le manager parfait n'existe pas, nous avons créé ce podcast pour vous partager chaque mois l'interview d'un ou d'une manager qui nous livre sans langue de bois son vécu. Si vous recherchez de l'inspiration, des conseils pratiques et pragmatiques, alors vous êtes au bon endroit pour développer votre style de management. Et pour aller plus loin, visitez notre site www.lesinfaillibles.com. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons Mario Lecheblanc, Senior Sales Manager chez Figma, un acteur émergent dans le domaine du design collaboratif. Marie a commencé sa carrière chez Oracle, d'abord à Dublin, puis ensuite à Paris, où elle a rapidement identifié comment faire progresser sa carrière afin d'avoir un impact sur ses projets, ses clients et les équipes auxquelles elle appartenait. Après quelques années de succès chez Oracle, elle rejoint l'équipe de lancement du bureau de LinkedIn en France, figurant parmi les 10 premiers commerciaux à l'époque où LinkedIn était encore peu développé en France. Autant dire que c'était une autre époque. Pendant 10 ans, elle a su brillamment performer et démontrer une capacité remarquable à l'entrepreneuriat, à transmettre de l'énergie et à incarner les valeurs de l'entreprise. Souhaitant devenir manager, elle n'a pas attendu qu'on lui propose un poste pour y réfléchir. Elle a élaboré son plan de carrière afin de développer les compétences nécessaires et de vérifier si c'était bien le poste qu'elle souhaitait occuper. Et c'est ce qu'elle vient nous partager aujourd'hui dans notre épisode. Marie fait partie de ces personnes qui ne laissent pas le destin décider pour elle. Elle prend les rênes, elle agit et met tout en œuvre pour que les choses se concrétisent. Alors cela ne marche peut-être pas toujours comme prévu, mais au final, l'histoire lui donne raison. C'est d'ailleurs chez Figma qu'elle accède au poste de manager au sein d'une entreprise qui a su identifier son potentiel et qui lui a confié la direction d'une équipe. En à peine 2 ans, elle est devenue l'une des meilleures managers de l'entreprise, récemment primée par un award pour ça. Et elle dirige actuellement l'équipe des comptes stratégiques et des grands comptes pour le bureau français. Dans cet épisode, nous passons en revue les étapes qu'elle a franchies pour élaborer son plan de carrière. Et si vous voulez mon avis, ce n'est que le début d'un parcours qui promet d'être remarquable. Bonjour Marie, bienvenue dans Les Infaillibles.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Bonjour Estelle, bonjour Sandy.
Salut Marie.
Hello Sandy qui est là évidemment. Donc Marie, parlons peu, parlons bien. Toi et moi, on se connaît parfaitement. On a travaillé ensemble chez Oracle. Coucou les oracliens.
Coucou.
On a travaillé ensemble chez LinkedIn. Coucou LinkedIn.
Coucou les LinkedIners.
Et nous sommes amis dans la vraie vie.
Tout à fait.
J'ai eu peur que tu confirmes pas. J'ai eu un petit moment de solitude. Bon, c'est pas parce que tu es mon ami qu'on te reçoit. On te reçoit parce que tu es manager. Et nous te recevons parce que aujourd'hui, tu es manager chez Figma. Donc, tu vas nous expliquer rapidement ce que fait Figma. C'est une solution de design collaboratif, je crois, mais tu l'expliqueras bien mieux que moi. Et l'élément déclencheur qui a fait que j'ai proposé à Sandy de te recevoir, c'est qu'il y a quelques semaines, tu as reçu un prix dans ta boîte du meilleur manager de l'année, je crois, meilleur manager commercial. Alors évidemment, en tant qu'amie, j'étais très heureuse pour toi. La reconnaissance que tu as reçue de Figma m'a rendue heureuse et je sais que devenir manager était un objectif qui était mûrement réfléchi pour toi. Donc, je suis vraiment ravie que ton employeur actuel utilise ce levier de motivation. Et j'ai proposé à Sandy de t'interviewer pour parler, pas de ton prix, mais parler de la préparation que tu avais mise en place pour ta carrière, pour devenir manager. Alors, dans Les Infaillibles, on n'interviewe pas tout le monde. Il faut passer le barrage Sandy. Et si elle avait dit non, bah, j'étais un peu mal à l'aise. Mais en fait, je savais qu'elle dirait pas non. Je savais qu'elle accrocherait avec toi et qu'elle accrocherait sur ce que tu allais nous raconter. Et pour moi, je suis enchantée de te recevoir parce que tu es un formidable exemple de prise en main de sa carrière. Et j'espère que ça pourra inspirer plein d'autres auditeurs qui ont envie de passer le cap, de postuler un job de manager. Voilà.
Merci beaucoup et ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager cette expérience, pour partager cette préparation et pour partager... tous les apprentissages que j'ai pu avoir pendant ces différentes étapes.
Bon, tu vas nous raconter tout ça en détail. On démarre par nos questions rituelles. En 2 mots, Déjà, est-ce que tu peux rapidement nous présenter l'activité de Figma et ton quotidien en tant que manager commercial dans cette entité à Paris?
D'accord. Alors, en deux mots, ça va être difficile, mais je vais essayer de résumer autant que possible. Donc, Figma, c'est une société américaine qui est née dans la Silicon Valley il y a 12 ans. C'est un éditeur de logiciels pour concevoir des produits digitaux. Qu'est-ce que c'est des produits digitaux? C'est aussi bien des applications mobiles, des sites internet, des interfaces numériques qui sont embarquées dans les produits du quotidien comme les voitures, l'électroménager, etc. Et donc, Figma, c'est la plateforme qui permet aux équipes produits et design de créer leurs produits comme s'ils avaient un papier et un stylo pour dessiner chaque élément qu'ils vont mettre sur les écrans de leur site et ensuite dessiner et décider du chemin d'interaction, de toutes les interactions possibles d'une page à l'autre sur les différents sites internet. Et une fois que tout ça est terminé, on passe ce travail, donc les designers vont faire une passation aux équipes ingénieurs, donc les développeurs qui vont développer ces applications pour les transformer en les applis qu'on utilise tous les jours. Donc Airbnb, Google, Spotify, RATP, Carrefour, BNP, etc. Toutes leurs applications sont construites grâce au logiciel et à la plateforme Figma.
Ok, bon, moi je crois avoir tout compris. Et qu'est-ce que tu fais là-bas du coup?
Cela fait 2 ans que je travaille chez Figma. En fait, j'ai été recrutée au moment de l'ouverture du bureau parisien. Nous n'étions que 4 à l'époque et aujourd'hui, on est une petite trentaine. Donc, j'ai la chance d'avoir pu recruter toute mon équipe, ce qui aide quand on a un premier job de manager, je l'avoue, parce que ça permet de choisir les personnes avec qui on va travailler, d'apprendre à leur contact et de créer un lien quand même de confiance. Et donc, pendant les 2 premières années, j'ai construit mon équipe directe, j'ai participé à la construction des autres équipes, participer à la construction de la culture du bureau, à construire notre connaissance du marché, parce que personne dans notre équipe ne vient du monde du product ou du monde du design. La manière dont on recrute chez Figma, c'est qu'on recrute sur la compétence plutôt commerciale, et ensuite, une fois qu'on est chez Figma, on apprend le monde du design, les personnes à qui on vend, leur quotidien, etc. Mmh. Et enfin, j'ai pris le temps de construire le business. Donc ça, c'était, on va dire, pendant la première année. Et depuis, j'ai maintenant une équipe en place, donc j'ai 7 personnes, donc une équipe de personnes qui sont sur la vente enterprise et stratégique. Et donc, dans mon quotidien, je dirais que j'ai à peu près 30% du temps qui est sur le terrain avec mes commerciaux, donc des meetings clients. J'adore le terrain et j'adore la vente, donc vraiment, c'est la partie que j'apprécie énormément. Je pense que j'ai 30% de meetings de mon temps qui est sur des meetings internes, donc avec les équipes sales ops, les équipes marketing, avec mes homologues aux US, au UK, etc., pour faire avancer l'entreprise, faire avancer la construction de la stratégie de l'entreprise, la stratégie commerciale. Mmh. Et je dirais que j'ai le reste, donc c'est 40% de meetings avec mes équipes. Donc c'est aussi bien les one-to-one avec eux, les team meetings, comment brainstormer pour se préparer à des meetings clients, etc. Je dirais que c'est de cette manière que s'articule mon agenda.
Ton agenda et ton métier de manager commercial dans une nouvelle entité où tu as construit l'équipe, construit la manière dont vous alliez approcher le marché en France.
Exactement.
Participer à la construction de la culture locale de Figma, qui est cette boîte américaine. Okay. Et donc, tu as 7 personnes dans ton équipe.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie pour toi être un bon manager?
Pour moi, un bon manager, c'est savoir se focaliser sur 3 éléments qui sont essentiels. Donc, l'équipe, la stratégie et les process. Quand je parle d'équipe, pour moi, un bon manager, c'est une personne qui est à la croisée entre 3 choses. C'est à la fois un expert du métier, un coach personnel et un leader d'équipe. Moi, je suis convaincu qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui est expert du métier. Moi, par exemple, je suis sales manager. J'ai moi-même eu une expérience, donc j'ai passé 15 ans en tant que sales. Je suis passé par des expériences différentes, par des tailles de deals différentes, tailles de clients différentes, etc. Et c'est fort de cette expérience qu'aujourd'hui, je suis capable de le mettre à profit, de partager ça avec mon équipe, les aider, les accompagner dans leurs deals. C'est pas seulement faire preuve d'empathie, parce qu'effectivement, on peut être people manager sans être expert, mais je pense que la dimension expertise apporte encore plus de d'aide, de confiance et de crédibilité dans ce qu'on bâtit avec nos équipes. Donc voilà. Et j'avoue que moi, les meilleurs sales managers que j'ai eu, c'était des managers qui étaient eux-mêmes de très bons commerciaux avant de passer manager. Ensuite, il faut trouver l'équilibre entre être un bon expert soi-même et être capable de coacher, d'avoir une approche de coaching personnel avec les membres de son équipe. Donc, avoir le côté développement individuel, comprendre comment accompagner chaque personne de son équipe, comment la faire grandir, comment la faire progresser dans sa carrière. Donc, vraiment ménager les individualités des équipes. Mais à la fois, le troisième élément qui est hyper important quand on parle juste de l'équipe, c'est oui, l'expertise, c'est oui, le coach personnel, mais également un leader d'équipe qui est capable de fédérer et de créer un environnement dans lequel tout le monde se sente à sa place, un environnement qui soit collaboratif, inclusif, etc. Donc, pour moi, un bon manager, c'est vraiment, ce n'est même un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de se focaliser sur l'équipe, sur la stratégie et sur les process. La stratégie, c'est comment donner une vision claire à son équipe. Une fois qu'on a cette vision, comment on est capable de la communiquer. Une fois qu'on la communique, comment on est capable de driver tout le monde, de tirer tout le monde, d'embarquer tout le monde dans cette vision pour atteindre un objectif commun. Et le dernier élément, c'est le process. C'est peut-être la partie la moins fun, mais je pense que dans les entreprises américaines, on appelle ça l'excellence opérationnelle. Mais on peut être un leader incroyable, on peut avoir une super stratégie, mais cette stratégie, elle peut être amenée à échouer si on n'a pas la rigueur suffisante pour gérer les process et faire en sorte que ben, tout ce qu'on a dessiné dans sa tête soit applicable et exécutable avec une excellence opérationnelle et un process qu'on suit et on aide l'équipe à suivre ça pour être performante au fur et à mesure du temps, des trimestres et de l'année fiscale.
Donc, l'équipe, la stratégie, le process, qu'est-ce qui te rend le plus fier en tant que manager?
La fierté, là dernièrement, donc, encore une fois, moi, ça fait 2 ans que je suis manager, donc j'apprends le métier, etc. Et j'ai eu plein de petites fiertés pendant ces 2 années. Mais je pense que ce qui me rend le plus fier, c'est les retours que l'équipe peuvent me faire lorsqu'ils me disent qu'ils ont le sentiment que je les accompagne vraiment, que je suis la manager qui a eu l'impact, le business pour eux le plus important. Et que je suis pas simplement là pour collecter du chiffre, mais que je les accompagne vraiment au quotidien, et que je crée une culture dans laquelle ils ont envie vraiment de venir tous les jours au travail avec le sourire.
Alors, Marie, ce que je te propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la thématique que tu as choisie, se préparer à devenir manager. Et je suis très, très contente à titre personnel qu'on traite ce sujet, parce que moi, j'ai la conviction que si chaque manager pouvait se préparer et idéalement se faire accompagner quand il démarre en tant que manager, ce sera un cadeau pour lui, pour ses équipes et pour l'entreprise. Pourquoi tu as choisi ce thème de la préparation pour devenir un manager?
Alors, j'ai choisi ce thème parce qu'il me tient à cœur et que je réalise que la carrière, certes, est longue, mais parfois on peut se sentir démotivé, on peut avoir l'impression de se préparer et de pas forcément atteindre les objectifs que l'on se fixe, etc. Or, un des principaux apprentissages de moi-même, cette préparation pour devenir manager, c'est de se dire que quel que soit l'objectif qu'on a, tout ce que l'on fait pour se préparer nous servira, pour se préparer nous servira un jour ou l'autre. Que ce soit dans l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui ou dans une future entreprise, mais tout ce qu'on met en œuvre pour se développer nous aide un jour ou l'autre. Et j'ai quand même pas mal d'amis, pas mal de collègues qui se sont retrouvés à un moment ou à un autre face à une impasse et se dire, bon, ben moi je suis découragé, j'ai envie d'atteindre un objectif et j'y arrive pas. Et en fait, finalement, cet objectif, il est peut-être ailleurs, mais tout ce qu'on aura mis en œuvre pour se préparer nous servira.
Alors, ça veut dire quoi pour toi se préparer à devenir manager et comment toi tu t'es préparé?
Alors, se préparer à devenir manager, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est comme se préparer à toute nouvelle étape de sa carrière. En fait, on avait donc chez LinkedIn, on a la chance d'avoir eu des leaders hyper inspirants. Donc, on avait un Mike Gamson qui nous expliquait et qui nous avait partagé un framework sur la manière dont on devait réfléchir aux différentes étapes de sa carrière. Et quand on réfléchit à l'étape suivante, c'était de se dire, bon ben voilà, d'abord tu fais ton job, you do the job, ensuite you nail the job, ensuite tu excelles à ton job, et ensuite You prepare yourself for the next play. Donc, tu fais le job d'après avant même d'avoir le job d'après. Et ça, c'est quelque chose que j'avais entendu plusieurs fois, dont j'avais entendu la théorie, mais je ne l'avais pas forcément directement expérimenté. Si bien que trois ans avant mon job de manager chez Figma, j'avais postulé à un job de manager chez LinkedIn, et ce job, je ne l'avais pas eu parce que je n'étais pas prête. Parce que donc j'ai eu des feedbacks pendant mon entretien qui me disaient les éléments sur lesquels j'étais pas prête, et donc j'ai commencé à me préparer sur les différents éléments en me disant bon, bah, la prochaine fois quand il y aura un nouveau job qui ouvrira chez LinkedIn, ben bah, je serai en position beaucoup plus favorable pour obtenir ce job. Et donc là le framework de Mike Gamson prenait enfin son sens. C'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui, alors que j'excelle déjà dans le job dans lequel j'opère, pour me préparer pour le job d'après, sans même avoir le job d'après. Donc, encore une fois, c'est « do the job before getting the job ». Et donc là, donc c'est ce premier écueil, le fait d'avoir postulé un job, de ne pas l'avoir eu, et quand on me posait des questions, on me posait des questions, si demain tu étais manager, qu'est-ce que tu ferais, etc. Mais je m'étais mise dans cette préparation, dans un état d'esprit de, quand on me posait des questions, mes réponses, ce serait plutôt, en tant que manager, je ferais ceci, cela. By the way, regardez ce que je fais déjà. Je suis déjà en train de me préparer. Regardez comment je coach déjà les équipes. Regardez comment je partage déjà l'expertise du job avec les équipes au sein du bureau, etc., etc.
Et donc, du coup, tu dis que tu t'es rendu compte lors de cet entretien qu'il y avait un gap entre les compétences que tu avais acquises et les compétences que tu devais acquérir pour être manager.
Exactement.
C'était quoi ces compétences ? Et concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour faire le job avant même de l'avoir ?
Alors, les compétences, donc il y avait pas mal de choses qui étaient demandées. C'était comment on coach déjà les équipes, comment on partage déjà notre expertise, on est capable de motiver et de driver des équipes entières vers du succès. Il y avait des éléments d'être beaucoup plus organisé, d'être beaucoup plus orienté data. Il y avait pas mal d'éléments comme ça qui m'avaient été partagés lors de cet entretien que je n'avais pas réussi. Donc ce que j'ai fait, donc en plus d'avoir ces éléments-là en tête, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une description d'offre de sales manager chez LinkedIn. J'ai regardé chacun des éléments sur lesquels on était attendu et j'ai regardé, moi, les éléments de gap de compétences que j'avais par rapport à ce qui était attendu et j'ai travaillé sur chacun des éléments. Les éléments fondamentaux sur lesquels on attendait les sales managers chez LinkedIn, par exemple, c'était de coacher les équipes, dont là il y a eu deux personnes un petit peu plus juniors qui étaient dans d'autres équipes basées à Dublin, qui, donc ça tombait bien, m'avaient demandé de les aider, de les accompagner, de les coacher, de les accompagner dans leur métier et de faire en sorte qu'ils puissent s'améliorer au fur et à mesure de nos échanges. Parce qu'ils me permettaient d'assister à leur meeting et ensuite de partager des éléments de coaching sur ce qu'ils auraient pu améliorer sur les réunions clients, par exemple, auxquelles je pouvais assister. C'était un premier élément sur la partie coaching.
Donc là, je me permets d'arrêter parce que je voudrais qu'on fasse un petit focus, Marie, sur ce que tu nous décris. Donc, premier élément de ta préparation, c'est accompagner les équipes. Et pour Exactement. Ça, du coup, tu identifies deux juniors qui, si j'ai bien compris, ne sont pas dans ton équipe. Tu sais que tu as en responsabilité hiérarchique. Donc, tu identifies deux juniors sur lesquels tu vas commencer à tester, finalement, l'accompagnement. C'est ça ?
Exactement. Alors, le dire comme ça, c'est un petit peu bizarre parce que le but, ce n'était pas de tester l'accompagnement, mais c'était dans la mesure où moi, j'étais plus senior dans l'organisation et que ces personnes-là étaient plus juniors et aspirait à évoluer sur des jobs un peu plus seniors, c'était profiter de cette opportunité pour partager, pour les coacher et pour les aider à comprendre les éléments sur lesquels ils devaient un petit peu se muscler pour pouvoir monter sur des dossiers plus importants, sur des tailles de deal beaucoup plus importantes, etc. Les compétences qui étaient requises sur le job supérieur.
Ok. Et juste, peut-être pour répondre à certaines questions que pourraient se poser nos auditeurs, qui seraient comment tu t'es positionné en mode coach ou mentor vis-à-vis de ces deux personnes ? C'est-à-dire comment elles ont accepté que tu sois leur mentor, comment leur manager a aussi accepté, enfin comment tu as réussi à avoir ce rôle, officiel, pas officiel, peu importe, mais comment tu as réussi à prendre ce rôle ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que chez LinkedIn, il y a une culture du partage, du mentorat qui est très présente. Donc, par exemple, moi, dans le cadre de ma préparation pour le job de manager, j'ai approché quelques personnes en leur demandant si elles acceptaient de me mentorer, de me coacher, de m'accompagner pour me permettre de développer les compétences et pour me préparer au mieux à ce job de manager. Donc, on est vraiment encouragé à se rapprocher de personnes qui nous inspirent, par exemple, pour apprendre d'elles. Donc, le fait que ces personnes m'aient demandé, donc ça tombait vraiment bien. Moi, j'avais besoin j'avais besoin et envie de partager, d'accompagner, d'aider des personnes à s'améliorer, les entraîner à la montée en compétences. J'avais besoin de ça. Et ça tombe pendant une période où ces deux juniors dans deux équipes complètement différentes, mais toutes les deux basées à Dublin, m'ont demandé si j'acceptais de les mentorer chez LinkedIn. Et ça, c'est pas des choses qui sont forcément formalisées. Lorsque j'avais, moi, par exemple, un mentor, j'en parlais à mon manager, je disais, j'ai demandé à telle personne de me mentorer et ton manager le notait quelque part en disant, bah, c'est génial, c'est bien, t'es proactif, ça démontre aussi de leadership et du fait que tu prends en main ta carrière. Et donc, pour ces personnes-là, elles ont certainement, enfin, elles l'ont fait auprès de leur manager, elles ont expliqué à leur manager qu'elles étaient mentorées par moi et on avait des sessions une fois par semaine où je les accompagnais sur des dossiers pour partager, moi, l'expertise que j'avais en tant que sales déjà plus senior dans l'organisation.
Ok.
Est-ce que ça répond à ta question ?
Tout à fait. Là, dans ce que j'entends, par rapport à ta préparation, la première chose sur laquelle tu t'es préparé, c'est accompagner tes collaborateurs. Et pour cela, tu avais identifié deux juniors que tu as pu faire monter en compétences. Qu'est-ce que tu as pu mettre d'autre en place pour te préparer à devenir manager, sur quelles compétences tu as travaillé ?
D'accord. Donc, en parallèle de la dimension coaching et accompagner des personnes un petit peu plus juniors à monter en compétences, les autres éléments sur lesquels je me suis préparé, je dirais, c'est donc j'ai été prendre une formation à l'INSEAD qui s'appelle le Management Acceleration Program que j'ai payé moi-même. Donc, LinkedIn participait. On avait 3000 euros qui était offert tous les ans pour les collaborateurs qui voulaient se former sur certaines compétences. Et moi, j'ai pris tout le reste et je suis partie me former là-bas sur toutes les dimensions fondamentales du management, donc aussi bien le leadership, business acumen, organizational behavior, plein de choses extrêmement intéressantes. Donc ça, j'ai adoré faire ça et je suis rentrée encore plus motivée, encore plus avec encore plus de passion et d'envie d'aller vers ce job.
Donc une formation généraliste finalement sur le management ?
Exactement.
Pourquoi tu as choisi ? Alors en dehors du fait que ça te prépare, mais pourquoi tu avais envie de faire cette formation ? Est-ce que c'était pour rassurer, pour trouver des outils pratiques ?
C'était les deux. C'était pour me rassurer. Pour aller apprendre un petit peu de théorie sur ce job de manager auquel j'aspirais énormément. C'était pour aller apprendre des choses un petit peu pratiques. C'était pour aller côtoyer des personnes qui étaient dans les mêmes types d'aspirations que moi. Donc ça fait du bien un petit peu aussi de sortir de son quotidien et d'aller voir des personnes qui sont au même moment que nous dans leur carrière. Et puis j'avoue que je suis une personne qui adore apprendre, mais vraiment j'adore apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouveaux secteurs d'activité, apprendre des nouvelles compétences, etc. Et donc de partir dans une parenthèse comme ça de 3 semaines sans être au bureau et juste dans un contexte d'apprentissage qui était complètement aligné avec là où je voulais aller dans ma carrière, bah, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié prendre cette pause.
Donc cette formation a fait partie de ta préparation. J'entends deux dimensions. Exactement. J'entends effectivement la dimension se rassurer, mettre de la théorie sur la pratique. Finalement, tu mets de la théorie sur peut-être des choses que tu faisais même déjà. Mais j'entends aussi le côté collectif, c'est-à-dire te rapprocher de gens qui font déjà, enfin qui sont déjà managers ou qui vont devenir managers, et du coup pouvoir aussi t'inspirer. Donc tu es aussi allé chercher de l'inspiration auprès de managers d'autres boîtes.
Exactement.
D'autres éléments de ta préparation que tu as envie de partager à nos auditeurs.
Oui, alors là, tu parles d'inspiration. Bah justement, d'autres éléments, c'est comme je le disais tout à l'heure, LinkedIn, c'était vraiment une entreprise. C'est une entreprise qui a la culture de l'apprentissage par l'autre, la culture de du mentorat. Donc, j'ai contacté quelques personnes très seniors dans l'organisation pour qu'elles me mentorent pendant ces périodes-là, pendant lesquelles je me préparais. Et le dernier élément, donc je parlais de coaching, je parlais d'aller faire de la formation, je parlais de me rapprocher de personnes qui sont déjà très seniors dans le et qui sont dans les fonctions auxquelles j'aspire. Et le dernier élément, c'était travailler sur les dimensions d'exemplarité et un petit peu d'innovation et d'être promotrice du changement. Donc, moi, de manière naturelle, j'ai toujours été, quand il y a eu des nouveautés chez LinkedIn, des nouvelles manières de positionner l'offre, je faisais toujours partie des premières à soit réussir à le vendre, soit réussir à le positionner, etc. Donc, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de la manière dont j'opérais. Et là, j'ai décidé de mettre un cadre, de mettre un process autour de ça, autour de cette compétence que j'avais dans l'exemplarité, dans l'innovation et dans la promotion du changement. Parce qu'on est arrivé à un virage où LinkedIn est en train de prendre un nouveau positionnement et donc on parlait plus seulement aux recruteurs, mais on parlait à toute la sphère RH. Donc ce nouveau positionnement-là nécessitait une nouvelle manière de s'adresser à nos clients, une nouvelle narrative. Et cette narrative, plutôt que d'attendre qu'elle nous vienne des US, j'ai décidé de la construire, donc avec les équipes marketing. Et donc j'ai décidé de construire toute cette narrative. Et au final, ça a été la narrative qui a été le nouveau standard au sein du bureau de LinkedIn pour l'ensemble des équipes commerciales en France. Et derrière, l'ensemble des équipes ont dû l'apprendre par cœur, etc. Et tout ça, c'était validé, approuvé et même sponsorisé par la country manager du bureau LinkedIn France.
Donc là, c'est plus l'élément finalement leadership, hein, parce qu'au début, quand tu nous parlais de ce qu'est un bon manager, tu nous as parlé de leadership. Là, ce que j'entends, c'est que c'est la dimension leadership que tu as travaillé en devenant référente sur des expertises métiers.
Oui, tout à fait.
Alors, moi, ce que j'adore là, et ce que j'adore dans ton témoignage, c'est que j'entends deux choses. C'est la proactivité et le côté faire les choses en conscience. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a pris sa carrière en main. Et je trouve ça super chouette quand trop souvent, on entend... des collaborateurs qui nous disent « Ok, en fait, moi, j'ai envie d'être manager. » Mais du coup, ils attendent une promotion. Mais là, ce que j'entends, c'est que c'est toi qui as pris ta carrière en main. C'est comme si voilà, j'avais face à moi quelqu'un qui avait mis en place un plan, quoi, un plan d'attaque pour passer à l'étape d'après.
Oui.
En revanche, il y a une étape que je n'entends pas et qui, pour moi, en tant que coach, est super importante. C'est la préparation plus dans l'introspection. Tu vois, souvent, quand j'accompagne des managers qui vont prendre leur poste, qui vont prendre un poste de manager, donc des futurs managers, je les aide à se poser la question pourquoi ils deviennent managers, est-ce qu'ils en ont envie, comment ils ont envie de se présenter quand ils vont prendre le poste, qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter aux équipes, parce que les équipes, elles ont aussi besoin de ça parfois, comprendre pourquoi la personne est face à eux, pourquoi elle est leur manager, ce qu'elle a envie de faire l'équipe. Et je me demandais si tu t'étais aussi préparé, donc plus... dans cette réflexion-là, quoi. Pourquoi tu as envie d'être manager? Pourquoi tu te prépares finalement à devenir manager? Pourquoi tu seras une bonne manager demain? Est-ce que ça a eu aussi cette réflexion plus introspective?
Alors, j'avoue que je ne l'ai pas vraiment eu. Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question parce que je n'ai pas l'impression d'avoir conscientisé les raisons pour lesquelles je voulais être manager, même si je le savais, mais je ne l'ai pas... je l'ai peut-être pas formalisé, peut-être que je l'ai pas suffisamment formalisé pendant les entretiens que j'avais passés justement 3 ans avant d'avoir le poste chez Figma. En fait, je peux te répondre à pourquoi je voulais être manager. Je ne suis pas certaine, pardon, qu'à l'époque, je l'avais formalisé de cette manière ou je l'avais partagé de cette manière. Donc, je vais te répondre. Aujourd'hui, je sais pourquoi je voulais être manager, etc. Mais je ne sais pas si à l'époque, je m'étais vraiment posé la question.
Donc, ce que je comprends, c'est qu'inconsciemment, finalement, tu savais que tu voulais être manager, mais consciemment, oui. Tu ne t'es pas posé la question. Ce qui, dans ton cas, et tu vas nous l'expliquer tout de suite, n'est pas un problème, puisque tu as une réponse à apporter à cette question. Mais ce qui peut être un problème, quand au final, tu veux être manager juste parce que ça fait bien sur le papier ou parce que c'est la prochaine étape, mais qu'en fait, t'as pas l'envie. T'as pas envie, en fait, d'accompagner des gens. Et c'est là où je trouve que cette question, elle est fondamentale. Mais toi, effectivement, j'entends que tu te l'es pas posée consciemment, et c'est pas très grave, parce qu'en fait, t'avais les skills, t'avais les compétences pour être manager. Mais du coup, je te laisse répondre à ma question. Aujourd'hui, pourquoi comment t'as envie de répondre au pourquoi être manager ?
Alors voilà, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. En fait, je pense que si tu m'avais demandé à l'époque pourquoi je voulais être manager, je pense que je me serais juste dit parce que c'est la suite logique, parce que c'est la suite logique dans ma carrière. Après avoir été sales, je veux être sales manager. Je sais donc aujourd'hui, moi, j'aspire à être VP of Sales. D'une entreprise, que ce soit américaine ou plutôt internationale. Donc ça, c'est mon aspiration. Mais pour arriver à cette aspiration, il fallait cocher la case de manager. Donc à l'époque, je pense que je t'aurais dit, bon voilà, moi, je vais être manager parce que j'ai envie de faire avancer ma carrière. Et je pense qu'il y a pas mal de gens pour lesquels c'est la seule raison. Et si tu ne souhaites être manager que parce que c'est la suite logique dans ta carrière et que tu veux apporter un galon à ton épaule ou à ton costume, eh bien, tu peux te planter. Parce qu'en fait, être manager, c'est changer complètement de dimension. Être manager, c'est devenir une personne qui est au service des autres. Être manager, c'est une personne dont le succès ne se nourrit plus par mon propre succès, mais le succès des autres. Être manager, c'est être dépendant de la performance d'autres personnes. Être manager, c'est avoir l'envie de partage, de transmission. Mais en fait, l'envie de partage et de transmission, ça prend. Enfin, le partage, la transmission, être dépendant de la performance des autres, ça requiert une énergie folle. Et cette énergie, si elle n'est pas nourrie par une vraie aspiration et parce que vraiment on est nourri par l'envie de transmettre, etc., ben en fait, on va se planter. Donc, ta question de base, c'est est-ce que je m'étais posé la question ? La réponse, en vrai, c'est non. Je savais que je voulais faire avancer ma carrière. Et au final, quand je réfléchis aujourd'hui à qu'est-ce qu'un bon manager, c'est un manager qui allie équipe, stratégie et opérationnelle excellence. Et j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, je coche ces différentes cases et que j'ai consciemment travaillé le fait de cocher ces différentes cases. Quand j'ai commencé à me dire comment je peux aller coacher les équipes, comment je peux être dans la transmission, comment je peux devenir référente, comment je peux faire preuve de leadership, comment, etc., etc. Donc, c'est peut-être pendant ma préparation que j'ai réalisé toutes les compétences qui étaient requises pour être manager, que je me suis préparée pour ça et que j'ai adoré ça.
Donc, Marie, pour reprendre un peu l'histoire, tu as postulé un job de manager chez LinkedIn. Tu ne l'as pas parce que tu coches pas toutes les cases à ce moment-là. Tu te prépares en conscience, de manière proactive. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ensuite, ce qui se passe, c'est... Donc, je me prépare pendant 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces entreprises américaines qui ont des filiales en dehors des US... lorsqu'on est dans des petites filiales qui ne sont pas des filiales qui sont dans un siège européen, donc par exemple le siège européen de LinkedIn est à Dublin, le siège européen de Figma est à Londres, en fait la plupart des ouvertures de postes sont dans ces sièges européens. Donc si on n'est pas dans un de ces sièges, qu'on est à Paris, Berlin, Amsterdam ou autre, on a très peu d'opportunités de grandir parce qu'il y a très peu d'offres qui ouvrent. Donc, moi, je me suis préparée pendant ces 3 années en me disant, je ne savais pas quand il y aurait un job qui ouvrait. Hein. Je me suis préparée, ça a duré 2, 3 ans, mais ça aurait pu durer 2 ans, etc. En me disant, dès qu'il y a une opportunité qui ouvre, je serai prête. Et en fait, ce que je n'avais peut-être pas réalisé, ou ce sur quoi je ne m'étais pas préparée, c'était peut-être la perception que les décisionnaires pouvaient avoir de la personne ou de la professionnelle que j'étais. Je m'explique. La première chose que j'ai réalisée lorsque je préparais mes entretiens pour Figma, donc lorsque je préparais mes entretiens pour Figma, j'étais une individuelle contributeur qui travaillait chez LinkedIn. Et c'est très difficile de faire un move de individual contributeur dans une entreprise pour être manager dans une autre. Ce qui est plutôt commun, c'est de faire individual contributeur dans une entreprise puis passer manager et ensuite le move de manager à manager d'une entreprise interne et d'une entreprise externe. Et donc moi, lorsque je me préparais, je me suis préparé, j'ai mis énormément de temps, d'intensité, de structure et de travail dans la préparation de mes entretiens pour rejoindre Figma, parce que je devais faire ce move de individuel contributeur à manager d'une entreprise A à une entreprise B, ce qui est un move qui est rarissime et qui est difficile à obtenir. Et en fait, pendant que j'étais en train de me préparer, plus je me préparais aux entretiens, plus je réalisais à quel point je me sentais prête pour le job. Plus je réalisais à quel point j'avais des choses à partager sur mon expertise métier, sur mon approche stratégique, sur mon coaching, sur la transmission d'énergie qui est nécessaire pour embarquer des équipes entières. Et en fait, plus je réalisais ça, et plus je me suis dit, mais finalement, moi, je me sens hyper prête. Je suis en capacité d'obtenir un job comme ça en externe, dans une entreprise à laquelle j'appartiens même pas et dans laquelle j'ai même pas fait mes preuves. Mais est-ce que, lorsque j'étais chez LinkedIn, les décisionnaires avait conscience de toutes ces forces que j'avais et de toute cette préparation que j'avais mise en place, etc. C'est là où j'ai réalisé, en fait, que peut-être que non. Parce que, donc, pour répondre à ta question initiale, qu'est-ce qui s'est passé après ces 3 ans? Ben, après ces 3 ans, il y a un job qui a ouvert. Et ce job-là qui a été ouvert, j'ai pas forcément eu le support des personnes qui prenaient les décisions à l'époque pour pouvoir postuler à ce job. Donc, je n'ai pas postulé. Et puis, finalement, j'ai continué chez LinkedIn. Puis, je suis parti en congé maternité. Puis, j'ai eu cette opportunité merveilleuse. Puis, j'ai postulé. Puis, je me suis préparé pendant 9 entretiens intenses et costauds. Mais j'ai réussi à avoir ce job. Donc, s'il y avait peut-être un learning à garder en tête sur cette préparation, c'est que. Et sa préparation ou non, hein, c'est quel que soit le job dans lequel on est, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est, c'est une expression qu'on employait beaucoup chez Oracle et une expression d'ailleurs que tu m'as rappelée, Sandy. Le savoir-faire est important, mais le faire savoir l'est tout autant. C'est-à-dire que le personal branding qu'on a dans une entreprise est extrêmement important.
Donc
Je pense
là,
que c'est important de se poser la question. Pardon, excuse-moi.
non, donc là, si je comprends bien la suite de ton histoire, finalement, c'est pas chez LinkedIn que tu as eu le poste de manager, c'est chez Figma, dans une autre boîte. Donc moi, ce que je comprends, c'est que ta
Exactement.
préparation, elle t'a permis justement de faire cette transition que tu disais quasi impossible, c'est-à-dire de passer d'un statut de contributeur individuel dans une boîte X vers un poste de manager vers une boîte Y. Donc ta préparation, elle t'a énormément servi puisqu'elle t'a permis d'avoir confiance et de faire finalement une transition qui te paraissait presque impossible. En revanche, ce que j'entends aussi, c'est que tu n'as pas forcément eu de poste chez LinkedIn comme ce que tu avais pu imaginer auparavant. Et finalement, là, si tu devais faire peut-être un peu différemment dans ta préparation ou que tu devais rajouter un corde à ton arc dans cette préparation, ce serait autour du personal branding. Est-ce que c'est ça?
Exactement, exactement.
Et
Parce qu'en
alors,
fait, j'ai,
ouais.
je, ouais, tout à l'heure, tu disais prendre sa carrière en main, être proactif, etc. C'est hyper important. Mais si on fait tout ça et que finalement les personnes qui sont décisionnaires et que lorsque les portes sont fermées, on n'a pas de promoteur autour de la table et qu'on a peut-être au contraire des détracteurs, bah ça nous aidera pas. Donc comment on fait pour que tout ce qu'on est en train de mettre en place soit suffisamment visible, perceptible et qu'on ait la réputation qui va bien, sur les attentes qui vont bien auprès des personnes qui prennent la décision lorsque la porte est fermée.
Alors concrètement, comment on fait? Est-ce que, parce que je sais que c'est un point qui est difficile pour les contributeurs individuels, pour les managers. Voilà, se faire, faire savoir ce que fait son équipe, avoir de la visibilité. En gros, c'est ça dont on parle. C'est compliqué. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner des conseils concrets de comment faire pour se rendre visible au sein d'une entreprise?
Alors, moi, le sujet, là, c'était pas tant se rendre visible, c'était plutôt rendre visible, enfin, raconter sa propre histoire et dire ce que l'on veut, être, comment dire, être propriétaire de son branding et de pas le subir. Il y avait des exercices qu'on faisait chez LinkedIn, par exemple, qui étaient qu'est-ce que vous pensez qu'on dit de vous mais qui n'est pas forcément vrai, et qu'est-ce qu'on dit de qu'est-ce qu'on ne sait pas de vous alors que c'est une force que vous avez, et comment faire en sorte que cette force elle soit le plus visible possible. Sur ce sujet-là, il y a une personne dont j'ai regardé les talks et je la trouve assez brillante. Elle s'appelle Carla A. Harris. C'est une américaine, donc je suis vraiment désolée. Moi, j'ai évolué dans des boîtes américaines, donc je suis biberonnée au speaker américain. Mais donc Carla A. Harris, ce qu'elle dit, c'est d'être propriétaire de son propre branding. Donc, par exemple, si parce qu'on sait hein, ce que les décisionnaires pensent de nous finalement. C'est juste que on pense qu'on fait si bien que si une personne pense de nous qu'on n'est pas par exemple dans l'opérationnel excellence et que c'est un élément clé pour accéder au job, donc c'est soi-même dire non mais tu me connais hein, moi je suis dans l'opérationnel excellence, tu me connais hein, moi de toute façon avoir un Salesforce toujours à jour c'est hyper important, tu me connais hein, etc. Donc c'est vraiment prendre le vocabulaire de la personne qui prend la décision et s'assurer que ce que l'on veut que cette personne pense de soi, ben que nous, on le dise à haute voix, en permanence, jusqu'à ce que ça rentre chez la personne. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais.
Ce que j'entends, c'est formuler les choses. Souvent, effectivement, on a tendance à dire, bah, attends, c'est évident, regarde, je fais ça, donc forcément, exactement. Il a conscience que je le fais. Et en fait, là, ce que tu dis, exactement. C'est de planter des graines en formulant exactement. Clairement ce qu'on a envie que les gens pensent de nous. C'est ça que tu es en train d'expliquer.
Exactement, exactement. C'est le formuler, le répéter, et l'illustrer à chaque fois. Oh, t'as vu ce que j'ai fait là? Ben, dis donc, encore une fois. Et c'est pas forcément, faut pas forcément que ça soit à notre désavantage et paraître arrogant ou autre, mais c'est simplement dire en toute humilité, mais répéter toujours les mêmes messages, et au bout d'un moment, ça rentre.
Et ça, c'est quelque chose que donc, t'as le sentiment de pas avoir fait assez?
Oui, je pense que je l'ai pas fait suffisamment. Je pense que je l'ai pas fait suffisamment. Donc la partie branding, donc il y a des éléments de branding qui me caractérisaient, donc l'énergie, tirer les équipes, être promoteur du changement, etc. Mais il y a une dimension peut-être excellence opérationnelle qui était attendue de moi, que je ne montrais pas suffisamment, ou sur laquelle on doutait certainement de mes capacités. Et c'est un élément clé pour passer sur un job de manager. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai tellement appris de ça. Qu'aujourd'hui, dans mes performance review, c'est des éléments sur lesquels je vais avoir des feedbacks hyper positifs de mon équipe, de ma manager, de mon leadership au-dessus, qui vont dire à quel point je suis hyper structuré, je donne de la structure, je donne de la cadence, les team meetings, les one-to-one, etc., etc. Donc, ça m'a desservi parce que je pense que ce branding, dont je pêchais, ne m'a pas aidé à obtenir les supports dont j'avais besoin. Mais derrière, c'est peut-être quelque chose que je force un petit peu à l'inverse, et que les gens aujourd'hui vont partager naturellement comme étant comme un trait de caractère qui me définit, alors que jusqu'à présent c'était quelque chose qui était établi comme un gap de compétences. Mais sans que ça ne soit jamais partagé. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est que tu vois tout à l'heure, tu me parlais de un bon leader, un bon manager, etc. Je pense qu'il y a une différence entre vraiment un manager et un leader. le leader, c'est celui qui va avoir à cœur ces trois dimensions-là, la dimension people, la dimension stratégie et la dimension process. Et dans la dimension people, il y a ces trois éléments. L'élément 1 d'expertise, l'élément 2 de coaching individuel et l'élément 3, l'équipe. Et parfois, juste un manager, il va se focaliser sur l'expertise, donc accompagner ses équipes vers le succès, avoir les bons chiffres, les bonnes atteintes de chiffres, etc. Avoir une bonne ambiance d'équipe, créer une culture positive. Mais je pense que la dimension la plus difficile sur la partie people, c'est la dimension accompagnement individuel, faire monter les gens en compétences, identifier avec eux les gaps de compétences, leur donner du feedback, leur dire là-dessus, t'es pas bon, il faut que tu avances, etc. Et c'est pas un reproche, enfin, c'est un reproche que je fais à personne parce que c'est pas facile d'être manager et qu'il y a plein de dimensions qu'il faut cultiver en même temps. Mais je pense que cette culture du feedback et de permettre à chaque individu de son équipe de grandir parce qu'on est capable de lui pointer du doigt ce sur quoi il doit s'améliorer et de lui dire, si tu veux atteindre ça, c'est ça qu'il faut améliorer. Je pense que ça peut aider beaucoup. En d'autres termes, malgré les efforts, malgré la préparation, il y a une co-responsabilité du manager dans le soutien, dans le feedback, dans l'accompagnement et dans la capacité de remettre en cause sa propre perception, parce que parfois elle peut être erronée. Donc, le fait de soulever les non-dits en ayant des conversations de manière ouverte, honnête et constructive avec ses équipes est très important. Pour moi, ça fait partie du courage managérial.
Du coup, ça me fait penser à cette question-là que j'ai envie de te poser pour conclure. Finalement, ce que j'entends, c'est que dans ta préparation, tu as été très autonome. Tu as parlé de mentor que tu étais allé chercher, mais finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment toi qui t'es préparé. Et j'aimerais savoir, toi, en tant que manager, dans quelle mesure tu prépares tes équipes aussi à devenir manager?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, la manière dont je prépare les équipes, c'est pas tant à devenir manager, c'est à réfléchir à ce qu'ils veulent devenir, à ce qu'ils veulent faire, à quel est leur next play, quelle est leur prochaine étape, et de faire en sorte qu'on se prépare ensemble à cette prochaine étape, quelle que soit la prochaine étape. Donc, il y a une ou deux personnes dans mon équipe pour qui les prochaines étapes, c'est d'être manager. Donc, j'ai fait exactement ce que moi, j'ai fait individuellement, de manière complètement autonome. Je les ai accompagnés à le faire. Je leur ai dit, tu prends deux ou trois jobs de job description de manager, tu regardes quels sont les gaps, et ensemble, on va travailler, et moi, je vais t'accompagner, et on a un point mensuel pour, avec ces deux personnes-là, pour les faire avancer vers ce sujet. Et après, c'est la même chose pour les autres personnes de mon équipe, mais sur leurs aspirations respectives. Donc oui, j'ai à cœur d'accompagner les équipes pour les permettre de se développer, de faire avancer leur carrière et pas juste parler du chiffre et de l'atteinte qu'ils peuvent avoir au trimestre, ou à l'année. Mais c'est aussi toutes ces compétences-là qu'ils développent d'experts et techniques qui leur permet court terme d'atteindre leurs objectifs. À long terme, comment on fait en sorte que ce soit aligné pour leur permettre d'atteindre l'étape prochaine de leur évolution de carrière.
Marie, merci beaucoup.
Oui.
Merci. On est arrivé à la fin de cet entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter partager ton expérience avec Sandy. Et j'ai pris des notes, donc je me permets un petit récap. Donc je vais parler sous ton contrôle. S'il y a des choses que je dis qui ne sont pas correctes, surtout tu me le dis. Se préparer à devenir manager. C'est un long chemin. C'est un peu comme un sportif, en fait. C'est l'image qui m'est venue quand je t'ai écouté. C'est un long chemin. Peut-être qu'on n'en voit pas le bénéfice immédiat, comme tu l'as dit. Mais il faut persévérer. Il faut prendre en main sa carrière. Alors, pourquoi devenir manager? Tu t'es peut-être pas posé la question de manière hyper consciente sur le pourquoi profond. Par contre, tu as appliqué une méthode, un plan, ton business plan à toi, pour le devenir. Tu nous as partagé un framework, donc un petit, je sais pas comment dire en français, un petit schéma, un petit cadre qui t'avait été partagé par Mike Gamson, qui était un des grands big boss chez LinkedIn, qui disait, quand tu veux obtenir un nouveau job, d'abord tu fais bien ton job, tu excelles dans ton job, étape 2, et étape 3, tu te prépares déjà à faire le futur job alors que tu ne l'as pas encore. Donc, il faut que tu montres que tu as des compétences qui correspondent au nouveau job. Ouais. Et toi, c'est ce que tu as fait, notamment avec le partage de tes connaissances et la transmission auprès de profils plus jeunes, plus juniors, sur ta compétence commerciale, alors partager ton expertise. Ensuite, tu as aussi travaillé, toi, à apprendre de nouvelles choses parce que tu es allé te former, tu t'es payé une formation pour peut-être te rassurer, peut-être pour t'inspirer d'autres personnes, pour alimenter ta curiosité et développer tes connaissances, mettre de la théorie sur peut-être de la pratique que tu faisais déjà. Il y a de l'innovation aussi, la thématique d'innovation où tu as montré que tu pouvais fédérer et développer ton leadership sans pour autant être manager, en prenant en main un nouveau projet autour de la compétence commerciale et de la manière dont vous dérouliez le pitch commercial auprès de vos clients. Tu as fédéré les équipes autour de ça. Et finalement, comme le disait Sandy, tu as eu de la proactivité, c'est-à-dire tu as pris les choses en main, tu as pris ta carrière en main avec ton fameux plan d'attaque.
Oui.
Alors, comme tu l'as dit, tu n'avais pas forcément conscientisé. C'était inconsciemment que tu savais que tu voulais devenir manager. Il y avait cette notion de carrière où tu voulais évoluer dans ta carrière. Et pour autant, c'est en pratiquant, en mettant en place ce plan que tu as réalisé que tu adorais ça. Tu adorais transmettre, tu adorais coacher d'autres personnes. Et ça t'a conforté finalement dans cette idée. Et donc, tu nous as dit, finalement, être manager, c'est être au service des autres. C'est comprendre que le succès ne dépend pas plus que de toi, mais dépend de ton équipe et comment tu vas amener ton équipe au succès. C'est beaucoup de partage, donc c'est très énergivore. Et pour ça, il faut quand même se préparer mentalement. Et moi, ça m'a rappelé une intervention sur un TED de Adam Grant qui parle de « Are you a giver or a taker ?» Donc, pour la traduction. Finalement, est-ce que vous êtes quelqu'un de généreux dans l'entreprise ou est-ce que vous êtes opportuniste à prendre des autres ? Et ce qu'il défend, c'est qu'au final, c'est parce qu'on est généreux, parce qu'on transmet, parce qu'on partage, parce qu'on va aider les autres, que c'est bénéfique sur le long terme dans l'entreprise. Et moi, c'est ce à quoi tu m'as fait penser quand je t'ai écouté. Je me permets de clôturer ce récap, qui est un peu formel et qui essaye d'être complet. C'est que tu nous as dit en fait que c'est en postulant à un job de manager dans une autre entreprise, ce qui n'est pas un chemin facile, parce qu'on dit toujours que c'est plus facile d'être promu dans son entreprise plutôt que d'aller chercher un job à l'extérieur, alors que tu ne l'as jamais fait. Oui. C'est en postulant et en préparant à ces entretiens chez Figma que tu as réalisé que tu étais prête, que tu avais vraiment mis tout ce qu'il fallait en place. Et tu nous as partagé cet apprentissage que tu as eu sur ta visibilité, ta marque personnelle en interne qui peut-être... à un moment donné, a pu, entre guillemets, faire défaut. J'ai juste envie de rappeler que, au-delà de ça, en fait, quand tu es allé chez Figma, c'était un ancien big boss de LinkedIn qui t'avait contacté pour dire est-ce que tu veux postuler à ce job ? Et que donc, en fait, ta visibilité, elle était là et qu'il y avait vraiment des gens qui voyaient déjà ton potentiel. Donc, la question aussi à se poser, c'est est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on observe le potentiel chez les autres ? Est-ce qu'on prend le temps de le regarder ? Et là, toi, c'est ce que tu fais déjà avec les personnes de ton équipe, puisque tu les prépares déjà à leur next step, tu les invites à se poser la question sur l'après et comment ils se préparent à cet après. Et je trouve ça très beau.
Eh bien, écoute, c'est un très beau résumé. C'est encore plus beau de l'entendre d'une autre bouche, d'une autre voix. Merci beaucoup de l'avoir résumé de cette manière parce que ça explique exactement ce que j'ai pu ressentir et le parcours par lequel j'ai pu passer.
Alors, on va arriver sur nos questions rituelles de fin. Est-ce que tu as un conseil à partager pour un manager qui démarre, du coup, au-delà de tout ce que tu viens de nous dire ?
Alors, oui. Je parlais tout à l'heure du fait que lorsque l'on devient manager, on est beaucoup dans le partage, la transmission, etc. Donc, quand on passe de individual contributeur où on a la maîtrise de son agenda, de son emploi et du temps, de tout ce qu'on fait, et bien lorsque l'on passe manager, notre agenda ne nous appartient plus. Notre agenda se remplit, donc c'est très facile d'avoir des journées qui ressemblent plutôt à des tunnels qu'à des vraies journées. Donc, se ménager des temps de réflexion, des moments de des bloqueurs qu'on devrait aménager dans notre agenda, des moments dans lesquels on n'est pas dans l'action, pour prendre le temps de réfléchir, de construire la stratégie pour l'équipe, etc. C'est fondamental, je pense. Donc, pour éviter de tomber dans la spirale des tunnels de meeting et dans lesquels on peut vite arriver lorsqu'on est nouveau manager.
Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager sur ces deux dernières années ?
Alors, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est de ne pas sous-estimer l'impact des erreurs de recrutement. Parce que c'est difficile de se retrouver dans des situations où on a des collaborateurs avec lesquels tout se passe bien, mais pour lesquels leurs compétences ne sont pas forcément les meilleures pour l'entreprise dans laquelle on est, pour le contexte dans lequel on est, pour le timing dans lequel on est. Donc, vraiment, l'impact des erreurs de recrutement, y faire attention, parce que je pense que quand il y a un doute, finalement, il n'y a pas de doute.
Ça me rappelle une phrase de Pierre Berlin.
Oui, encore et toujours notre fameux Pierre Berlin.
On a un épisode avec lui pour nos auditeurs récents. C'est un des tout premiers épisodes. Et là, cette phrase, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et la dernière question, une ou plusieurs sources d'inspiration pour les managers. T'as intérêt à dire le podcast oui. Les Infaillibles, sinon ça va pas bien se passer.
Alors, numéro 1, le podcast des Infaillibles, évidemment, pour apprendre. Donc, tout à l'heure, on parlait avec Sandy d'intelligence collective, d'apprendre des autres, etc. Et ça, c'est génial pour apprendre d'autres managers, d'autres leaders. Donc, écoutez ceux qui passent par les mêmes expériences que vous. Et la deuxième chose, à nouveau, désolée, mais très américaine, biberon américain dans mon... lait américain dans mon biberon, c'est une de mes sources d'inspiration, c'est Simon Sinek. Un de ces axes de réflexion que j'adore, c'est la force de la confiance la force de construire un environnement dans lequel les employés se sentent en confiance pour travailler, parce que c'est lorsqu'ils se sentent en confiance qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils peuvent être suffisamment créatifs et stimuler un maximum la performance. Et c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs des collaborateurs, en créant un environnement de confiance pour qu'ils puissent exploser, dans le bon sens du terme.
Alors, merci Marie. Merci du temps que tu nous as accordé à partager ton parcours. Merci Sandy d'avoir mené cette interview de Marie.
Avec grand plaisir.
Et on va suivre tes aventures, Marie. Tu reviens quand tu veux au micro des Infaillibles pour nous partager plein d'autres choses. Et puis, on espère voir sur LinkedIn un post l'année prochaine sur le fait que tu es à nouveau la manager de l'année chez Figma.
Merci beaucoup. Merci à toutes les deux.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Vous êtes manager, dirigeant, RH, responsable de la formation et vous voulez développer les compétences managériales au sein de votre structure ? Contactez-nous www.lesinfaillibles.com ou sur les réseaux sociaux. Estelle Zakarian et Sandy Melamed, vous nous trouverez sur LinkedIn. Et si vous trouvez ce podcast utile, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts pour contribuer à sa diffusion et à un management toujours plus authentique. À bientôt !